Nous sommes de retour à l'émission Au gris du temps et on a le bonheur d'accueillir aujourd'hui Ghislaine Giroux, qui est une pianiste émérite qui a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup à la jeunesse.
Oui.
Parce que vous avez formé un très grand nombre de jeunes, d'abord à l'initiation au piano,
oui.
Et vous les accompagnez souvent très longtemps.
Je les accompagne souvent très longtemps, puis maintenant, c'est drôle parce que je ne sais pas si c'est avec l'âge, mais là, je suis rendue maintenant avec une classe adulte et j'adore ça. J'aime tellement ça.
Pourquoi
de voir. Ben, c'est de les voir, là. Tu sais, ils travaillent fort, puis ils veulent découvrir un peu, c'est comme un mystère. Pour eux, je pense que c'est un mystère.
Des gens qui se sont mis à la musique tardivement?
Ben, il y en a qui se sont mis à la musique tardivement. Il y en a qui avaient déjà fait de la musique plus jeune puis qui ont abandonné. C'est ça qui est extraordinaire de voir ces gens-là. Puis, j'ai un petit peu essayé de continuer ce que le père Lindsay avait fait avec les jeunes, avec le camp musical. Donc, moi, j'ai... ça fait longtemps qu'il lui il voulait ça, faire une session avec des adultes. Et puis, c'est ça, depuis quelques années, j'ai parti ça, puis c'est le fun, parce qu'avec les adultes, là, c'est un autre monde. Hein?
Vous l'avez fait l'été dernier.
Oui.
Encore une fois, vous le ferez peut-être cet été.
Bien, on l'a fait au mois de juin. C'est un petit camp de fin de semaine, mais là, on a essayé un grand camp de 5 jours. Oh là là, là, c'est... mais il paraît qu'ils ont hâte. Ils m'écrivent des courriels, puis ils me disent qu'ils comptent les dodos.
Et c'est exténuant pour la personne qui dirige tout ça.
Un petit peu.
J'ai vu quelques courriels où on mettait ouf.
oui, mais c'est tellement valorisant, là, tu sais, d'aller voir ces gens-là. C'est extraordinaire. Non, c'est vraiment extraordinaire.
Et comment aborde-t-il la musique, si on comparait, par exemple, à un jeune de 7 ans?
Ben, eux, là, ils analysent beaucoup plus, hein. C'est un petit peu le problème. C'est qu'ils analysent tout. Contrairement au jeune de 7 ans, lui, il se fie à tout.
C'est une éponge.
Oui. Puis lui, il fait ce que tu lui dis. Tu sais, bon, tu fais ça, il t'écoute, tu sais. L'adulte, il y a plus de difficultés à se laisser imbiber de ça, là, de la musique.
Un côté rebelle?
Côté rebelle, mais en même temps, un côté qui n'ont pas tellement confiance en eux. Puis, tu sais, ils ne savent pas pourquoi je fais ça finalement. J'ai un élève qui dit toujours que lui, il joue à serpent échelle avec moi parce que quand il est chez lui, il est dans les échelles. Puis quand il arrive avec moi, il est rendu dans les serpents.
J'aime ça.
Mais je dis, si tu veux avancer, il faut faire quelques serpents.
Oui, il faut lancer les dés.
Exactement.
On va amorcer cette seconde partie avec une autre proposition. Là, vous nous amenez vraiment dans... Vous êtes vraiment très éclectique.
Oui.
On est passé de Chopin à Pink Martini. Et là, on s'en va à l'opéra.
Oui.
Avec une chanteuse non la moindre, Maria Callas.
Exact.
Et qu'est-ce que vous nous proposez?
Bien, moi, je vais vous proposer l'ère des cartes. Alors là, on sait que, bon, Carmen est avec ses amis. Et puis, ils se tirent aux cartes. Et puis, elle pige la carte de la mort. Mais je vous jure que c'est vraiment épeurant. Moi, là, ce timbre de voix-là, il y en a qui vont dire, « Oh mon Dieu, c'est tellement laid. » Non, c'est parce que c'est épeurant. C'est pas laid, c'est épeurant. Comment elle chante, là. Moi, je l'ai sur le CD, puis j'en avais des frissons, là, frissons.
Et elle chante avec Nadine Sautreau.
C'est ça.
Jeanne Berbier, et c'est l'orchestre de l'Opéra National de Paris sous la direction de Georges Prêtre. C'est un classique de Maria Callas.
Oui, exact.
Le mien est très riche et très vieux, mais si elle parle de sur son cheval et dans la montagne il m'entraîne. Dans un château presque royal, le mien est un long souverain.
Alors, ça donne pas vraiment le goût de jouer aux cartes, cependant.
Ça donne pas le goût de se faire tirer aux cartes.
Ouais, c'est ce
on
dire.
Peut jouer aux cartes.
Il y avait un petit côté satanique à tout ça.
Oui, c'est ça.
On a parlé, vous avez mentionné tantôt que vous accompagnez des adultes. Je peux en témoigner parce qu'on a un ami commun.
Oui.
Qui a pour nom François Millette, qui est passé ici à ce micro, qui a été, en fait, qui a profité beaucoup de votre enseignement.
Quand il était plus jeune, il a profité de mon enseignement. Maintenant, il profite de peut-être plus de certains conseils plutôt que de l'enseignement.
Et du plaisir que vous avez tous les deux de jouer ensemble.
Absolument. Ça, c'est fantastique. C'est fantastique. Puis, tu sais, c'est ça, c'est la découverte tout le temps avec ces adultes-là, de voir jusqu'où ils peuvent aller. Quand ils se font confiance, là, jusqu'où ils peuvent aller. Puis, il n'y a pas de prétention là-dedans. Là. Il n'y a pas à dire, ben moi, je suis, tu sais, non. Non, il n'y a aucune prétention.
Et François est vraiment un bon pianiste. Il a même, depuis quelques années, organisé un récital annuel.
Oui.
Au profit d'une fondation qu'il a créée et qui vient en aide, en fait, à une école secondaire.
C'est ça?
La fondation d'une école secondaire. Et François... On peut bien le dire, c'est un être unique en soi. On est tous des êtres
oui,
uniques.
Mais... il est un petit peu plus unique que nous. J'oserais pas dire l'unique.
Non, voilà. Mais il a effectué un travail gigantesque. Je ne sais pas comment il a réussi à faire cela, mais il a enregistré le livre, le roman de Dostoïevski, Les démons.
Oui.
Dit aussi les possédés. C'est une brique de 1000 pages.
C'est ça. Moi, j'avais dit comme ça quand il m'a proposé qu'il voulait faire ça. J'ai dit, mais le joueur, ça ne tenterait pas de commencer avec le joueur. Tu sais, c'est moins épais. Il y en a moins, il y a moins de pages.
Et il m'a fait passer de très beaux parcours sur l'autoroute 20 entre Montréal et Québec parce que quand je voyageais entre ces deux villes, j'écoutais toujours un chapitre additionnel et j'avais hâte d'entrer dans ma voiture pour connaître la suite parce qu'il personnifie tous les personnages de ce roman, qui est un roman gargantuesque.
Exact.
On va lui faire une surprise parce qu'on va entendre un extrait de cet enregistrement qu'a effectué François Millette. Et François, lorsqu'il est venu ici à la station, il a aussi joué du piano et on l'entendra nous interpréter « Scène d'enfant ». Pièce de Robert Schumann.
Oui, qui aime beaucoup.
Oui, à la suite de ce petit extrait. Alors, on écoute François, histoire de vous mettre peut-être un petit peu dans le contexte de ce que nous allons entendre. Tous les personnages de ce grand roman sont possédés par un démon, le socialisme athée, le nihilisme révolutionnaire, la superstition religieuse. Des idéologies, on se reporte là vraiment au début du 20e siècle, des idéologies inaptes à rendre compte de l'humain et de ses rapports sociaux et amenant utilement à un terrorisme destructeur. On peut dire que Dostoïevski était, peut-on dire, visionnaire
de
ce qui allait survenir. Alors voici un extrait de l'enregistrement qui décrit un des personnages de ce roman, c'est Varvara Petrovna, dont le salon est un lieu de prédilection pour les intellectuels vaniteux.
Mm-hmm.
Le caractère de Varvara Petrovna était ouvert et fier, le genre à l'attaque, s'il est permis de parler ainsi. Ce qu'elle pouvait supporter le moins, c'était les accusations secrètes, cachées, et elle préférait toujours la guerre ouverte. Quoi qu'il en fût, il y avait déjà 5 jours que les deux dames ne s'étaient pas vues. La dernière visite avait été faite par Varvara Petrovna, laquelle avait quitté la Drozdova, humiliée et troublée. Je puis dire sans erreur que Praskovia Ivanovna venait d'entrer avec la certitude naïve que, pour une raison ou pour une autre, Varvara Petrovna devait avoir peur d'elle. Cela se voyait déjà à l'expression de son visage. Mais, visiblement, C'est dans ces moments-là surtout qu'un démon de l'orgueil des plus susceptibles s'emparait de Varvara Petrovna, quand elle pouvait ne fût-ce que soupçonner qu'on la croyait, d'une façon ou d'une autre, abaissée. Praskovia Ivanovna, elle, comme beaucoup de personnes faibles qui permettent d'elles-mêmes pendant longtemps qu'on les humilie sans protester, se distinguait par une fougue extraordinaire dans l'attaque à la première occasion qu'elle croyait favorable. Certes, en ce moment, elle était en mauvaise santé, et sa maladie la rendait encore plus irritable. J'ajouterai enfin que notre présence, à nous tous qui nous trouvions dans le salon, ne pouvait pas être une gêne pour les deux amies d'enfance si une dispute s'allumait entre elles. On nous considérait comme des gens de la maison, pour ne pas dire de la valetaille. C'est une chose que je compris tout de suite avec frayeur. Stepan Trofimovitch, qui ne s'était toujours pas assis depuis l'entrée de Varvara Petrovna, s'affaissa sur une chaise, épuisé, quand il entendit ainsi glapir Praskovia Ivanovna, et c'est avec désespoir qu'il se mit à chercher mon regard. Chatov se retourna d'un coup sur sa chaise et meugla même quelque chose dans sa barbe. J'eus l'impression qu'il voulait se lever et sortir. Lisa, elle, s'était presque levée, mais elle se rassit tout de suite, sans même prêter au glapissement de sa mère l'attention qui lui était due, et pas à cause de son caractère incontrôlable, mais parce qu'elle se trouvait visiblement sous l'influence d'une autre espèce d'impression, ô combien plus puissante. Elle regardait à présent Dieu, c'est tout, vers le ciel, presque distraitement, et avait même cessé de faire attention, comme auparavant, à Maria Timofeyevna.
Dire chapeau à François.
Oui, c'était tellement ça, là. Ça fait partie des beaux projets qu'on a dans notre vie. Hein? Vous savez, des fois, on n'a pas besoin de toujours faire métro, boulot, dodo, là. Ça, là, lui, il est toujours dans des projets comme ça, puis c'est ça qui est allumant, je trouve.
Et vous, vos beaux projets?
Ah, ben moi, je n'arrête jamais. Des fois, je me dis, mon Dieu, c'est comme un petit hamster qui tourne dans ma tête, là. C'est ça. Des fois, je me dis, mon Dieu, il faudrait que j'arrête un peu. Mais non, j'ai toujours des projets. Alors, ça fait 5 ans là, que j'ai fait le projet avec le camp des adultes au camp de la Naudière, avec le père, ben, pas le père Lindsay parce qu'il est décédé maintenant. Mais c'était un de ses rêves de faire ça. Et puis, ben là, je pensais m'arrêter. Tu sais, je me suis dit, bon, ben là, je pense que... Mais l'an passé, j'ai une élève, une adulte qui est directrice d'école, puis elle m'a dit, oh, j'aimerais ça si on pouvait faire du piano en parascolaire à mon école, puis tout ça. Alors, on est parti le projet. Et puis, voilà.
Et le projet vit bien.
Pour l'instant, le projet vit bien. Puis là, j'ai d'autres idées. J'ai vu qu'il grandisse un peu, là, comme un bébé. Hein, ça, là, c'est un petit bébé. Puis là, il faudrait qu'il grandisse, ce projet-là.
Mais il va falloir reprendre le souffle. Vous êtes toujours sur un pied dans ça, vous.
C'est ça. Je pense que c'est rare que je vais arrêter.
Alors, si je vous propose une gigue.
Ah oui, ça serait parfait, ça.
La gigue de la partita numéro 4 en ré majeur, encore une fois, de Jean-Sébastien Bach. Mais interprété par Glenn Gould.
Extraordinaire. Merci.
Vous voyez, on peut parler de danse, on peut parler de bac, on peut parler de vos projets, tout ça fait unicité.
Oui, c'est ça, mais c'est comme ça. Je pense que quelqu'un qui a toujours des idées, des projets, il s'ennuie jamais.
C'est vrai. Hein?
C'est vrai, parce que quelqu'un qui est mort dans sa vie, tu peux être mort dans ta vie là aussi. Hein?
C'est quoi votre grand rêve à vous?
Il a mon grand rêve, ça serait... Ça, je me suis toujours dit, un jour, j'aimerais ça, là. C'est d'apprendre la fantaisie de Schumann. Oui. C'est pas facile. J'ai déjà le troisième mouvement. Le deuxième, il cause quelques petits cheveux blancs. Mais je me dis, ça, j'aimerais ça peut-être m'en aller comme en Gaspésie. Tu loues une maison sur le bord de la mer.
Et vous consacrez qu'à cela?
Oui. Pendant un an. T'essayes. Pendant un an. T'sais, mais
c'est à ce point difficile?
Ah oui, moi, personnellement, je pense que c'est une des œuvres très... C'est surtout le deuxième mouvement, là. Oui, oui, oui. Ça,
plus
c'est...
que du Rachmaninov?
Bien, je pense que même Martha Argerich le trouvait difficile.
Ah, bon, d'accord.
Alors, c'est comme on peut dire que je pense que c'est un gros défi.
Oui, c'est une bonne référence.
Oui, oui, oui.
Écoutez, c'est déjà amusant. On parle, et déjà l'heure est écoulée. Je vais vous demander, parce qu'on n'a pas dit grand-chose, il faut continuer de se parler.
Oui.
Alors, je vous invite à venir la semaine prochaine.
Oh, ça me ferait vraiment plaisir.
On va poursuivre les conversations, puis ça va peut-être vous permettre de commencer à pratiquer votre fantaisie de Schumann.
Mais je vous garantis pas que je vais la jouer la semaine prochaine, là.
Non, alors je vous le demanderai pas. Merci beaucoup, Ghislaine, de ce passage, et on se retrouve la semaine prochaine. Le temps de vous dire que cette émission a été réalisée sous la supervision de Anne-Louis Lins, Armand Dubois au micro à la réalisation, et passez une excellente semaine. Écoutez beaucoup de musique, puis peut-être davantage de musique pianistique. Vous allez voir, le piano, c'est l'instrument par excellence, n'est-ce pas?
Oui, c'est le roi.
C'est le roi. Ou j'allais dire la reine, même si c'est un masculin, il y a beaucoup de reines qui se retrouvent au piano et
exactement.
Vous en êtes une.
Merci beaucoup.
Alors, on se quitte donc avec une dernière pièce. C'est une chanson, elle est de Jean-Jacques Goldman. Le temps de se dire qu'on va mettre, avant de se retrouver la semaine prochaine, 4 mots sur le piano.
Parfait.
4 mots sur un piano, ce qu'elle a laissé. 4, c'est autant de trop, je sais compter. 4 vents sur un passé, mes rêves envolés. Mais qu'aurait donc cet autre que je n'ai? Ne le saurais-je jamais? 4 est banal, cliché, dénouement funeste. 3 moins 2 qui s'en vont, ça fait moi qui reste. Caresse, égard et baiser, je n'ai pas su faire. La partager me soufflait Lucifer. Depuis je rêve d'enfer. Moi j'aurais tout fait pour elle, pour un simple mot. Que lui donne l'autre que je n'offrirai. Elle était mon vent, mes ailes, ma vie en plus beau. Était-elle trop belle ou suis-je trop sot? N'aime-t-on jamais assez? 4 années belles à pleurer, maigre résumé. Carte jouée, mais la reine s'est cachée. 4 millions de silences, de regrets qui dansent. Les questions, les soupirs et les sentences. Je préférais ses absences. Moi j'aurais tant fait pour elle, pour boire à son eau. Que lui donne l'autre que je n'offrirai. Elle était mon vin, mes ailes, ma vie en plus beau. Était-elle trop belle? bien ou trop sot. N'aime-t-on jamais assez?
Vous étiez ma vie comme la nuit et le jour. Vous de nous effiliez mon parfait amour. Un matin vous m'avez condamné à choisir. Je ne vous aimais qu'à deux. Je vous laisse, adieu.